Tire ta langue. Pour la deuxième année consécutive, des professeurs du lycée Carcoué, un lycée nantais situé à la croisée de deux quartiers populaires, ont organisé au printemps l'événement Tire ta langue, une action destinée à mettre en valeur la diversité des langues parlées par les élèves de ce lycée. Pas moins de 22 langues ont été recensées. Certains se sont livrés auprès de leurs camarades à des ateliers d'initiation à leur langue maternelle. Avec cet événement, l'un des professeurs organisateurs, Frédéric Palierne, espère aussi lutter contre l'image stéréotypée dont peut souffrir le lycée Carcoué du fait de son implantation entre les quartiers Breille et Dervalière. Rencontre avec cet enseignant et les élèves qui se sont prêtés au jeu pour mettre en valeur le portugais, le chimaoré ou le bakoko.
Frédéric Palierne, je suis prof de français au lycée Carcoué à Nantes. Et j'ai fait aussi un peu de littérature comparée, ce qui explique aussi un certain goût pour les langues. Et je suis co-organisateur cette année de Tire ta langue. La première édition, c'était une simple exposition, enfin qui n'était pas si simple que ça d'ailleurs, qui est une exposition qui présente des panneaux uniformes pour présenter les langues. Parce que l'idée, c'était de faire vraiment un travail sur les langues et pas un travail sur ni les nationalités, ni les communautés, ni vraiment la langue uniquement. Donc on a représenté toutes les langues avec les pays où elles sont parlées, en règle générale, et on a essayé d'harmoniser les panneaux. Je crois que c'est M. Fayet qui a fait les panneaux d'un autre établissement et qui nous a fait un logo et qui nous a fait vraiment des super panneaux, vu que lui, il est prof d'art plastique. Et donc, on a lancé cette première exposition. Et cette année, on a complété le dispositif avec des ateliers de langue, c'est-à-dire des ateliers avec des élèves qui forment d'autres élèves à leur langue, enfin, qui initient les élèves à leur langue. Donc on a des ateliers de tchèque, de bambara, de wolof, de russe, enfin on a une douzaine de langues enseignées. Hein, parce qu'on s'est appuyé quand même sur ceux qui avaient fait ça déjà l'année dernière.
Comment vous est venue l'idée de monter une action comme celle-ci ?
Alors elle vient, je pense que c'est une idée qui vient d'assez loin en fait. Elle m'est venue dans un premier temps parce que j'ai travaillé avec des étudiants à l'université et aussi en école de commerce, avec des étudiants étrangers. Et j'ai fait du français langue étrangère pour ces étudiants. Et je me suis aperçu qu'en fait on pouvait travailler sur les expressions de ces étudiants. Je leur avais demandé une fois de m'apporter des expressions typiques de leur pays, mais pas obligatoirement des proverbes. Et j'ai découvert que les Colombiens disaient, pour dire à quelqu'un de disparaître, ils lui disaient « dessine un petit bois, il va te cacher dedans ». Un Brésilien m'a dit « moi je suis un carioca jaune d'œuf », c'est-à-dire je suis du centre de Rio, si on considère que Rio est un œuf. Une Chinoise m'a dit « on a une expression en Chine qui dit « faire du shopping jusqu'au sang », pour dire se ruiner à faire les courses ». Ouais, et donc à partir de là, c'était assez intéressant. Donc le projet à l'époque s'appelait Super Translator. C'était une espèce de super traducteur, enfin, c'était un truc un peu comique. Et puis finalement, comme dans notre établissement, il y a une richesse de langues absolument incroyable, on a décidé avec M. Nicolas l'année dernière de lancer l'expérience ici, de voir ce qu'on pouvait faire comme ressource, enfin en utilisant la ressource variée des langues parlées dans l'établissement.
Comment est-ce que vous pourriez décrire le territoire sur lequel est installé le lycée Carcoué pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Nantes ?
Alors, c'est un lycée qui est à la limite entre Nantes et une autre commune qui s'appelle Saint-Herblain, qui est située au nord de Nantes. On est sur un boulevard qui est le boulevard du Massacre, qui est le boulevard frontalier. Et on peut définir ce lycée a priori, justement, si on reste dans les a priori, comme un lycée des quartiers nord de Nantes. C'est-à-dire qu'on est entre le quartier du Breil-Malville et le quartier des Dervaliers. Et dit comme ça, ça fait toujours peur, ça fait toujours ghetto. Et en réalité, c'est un lycée qui a un campus tout à fait vert, très tranquille. Les élèves sont charmants. On a beaucoup de classes de BTS, ce qui explique la date aussi dans l'année à laquelle on fait ce genre de festival. C'est-à-dire que c'est juste avant que les élèves de BTS nous quittent. Et d'ailleurs, ce sont les élèves de BTS qui gèrent l'accueil, puisqu'on fait, on a une classe de tourisme. Donc c'est eux qui dispatchent les gens qui viennent à l'expo, etc. Donc c'est un lycée qui est assez inventif, assez imaginatif. En ce moment, nous avons par exemple des résidents suédois dans l'établissement, une classe, parce que nous avons des secondes et des premières avec une dimension européenne. Et nos élèves vont en Suède. Il y en a d'autres qui partent aux États-Unis dans deux semaines, si mes souvenirs sont bons. Il y en a qui sont allés au Danemark. Nous accueillons des élèves de ces pays, peut-être pas les Américains, j'en sais rien. Mais, bon, donc il y a une sorte d'échange permanent et porté notamment par tous les profs de langue ici qui ont initié ce genre de cours. Profs de langue, je précise, qui nous ont aidés sur le projet Tire-ta-langue cette année pour créer les ateliers. Parce que monsieur Nicolas est professeur documentaliste. Moi, je suis professeur de français. Donc, je ne suis pas qualifié pour enseigner les langues. Non, ils ont des idées. On a, je vais dire des noms, mais on a madame Couder en anglais, Blasco et madame Moisan en espagnol. On a Alison Plot en anglais aussi, qui nous ont donné vraiment un grand coup de main en s'occupant de poules de 2-3 élèves pour leur expliquer comment on faisait un cours. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a aucune difficulté. Elles sont dans les starting blocks et ça se passe bien.
Quelle est la dimension pédagogique pour les élèves qui participent à cette action ?
Alors, la dimension, ça dépend le sens qu'on donne au mot pédagogie. C'est toujours un peu le même problème. La première dimension pédagogique, c'est d'une certaine manière pour les élèves, par exemple, qui parlent des langues rares. Voire des langues africaines rares, etc. Il y a peut-être une dimension de prise de conscience et de confiance en même temps, hein, par rapport à la richesse potentielle de leur savoir, puisque généralement, donc ces élèves-là, on va leur demander de parler français, bon, ça, généralement ils parlent français, mais on va leur demander de parler anglais et espagnol, et on considère que les langues étrangères, c'est allemand, anglais, espagnol. Bon. Or, les langues étrangères sont les langues étrangères, et donc on a des élèves, par exemple, qui parlent déjà 4 langues quand ils arrivent. On a une élève cette année qui adore les langues, qui parle Wolof, qui parle le Bambara, qui parle le Guinéen. Alors je ne sais plus ce que c'est, le Dishkanker, je crois, mais je ne suis pas sûr, de l'année dernière. Et elle communique avec tout le monde dans toutes les langues. Elle était l'année dernière avec un stand à côté d'une étudiante islandaise. Elle a appris des mots d'islandais. C'est-à-dire qu'elle est super douée pour les langues. Donc ça, c'est une dimension pédagogique aussi. C'est une dimension de révélation. Pour certains, du rôle que joue la langue, etc. La deuxième dimension pédagogique, ça c'est le prof pervers qui parle, c'est-à-dire c'est comment faire du français sans avoir l'air de faire du français. C'est-à-dire que être obligé de réfléchir sur la langue, être obligé, par exemple, on a un troisième dispositif aussi cette année, on a une expo supplémentaire qui s'appelle 10 mois 10 mots, qui est proposée par... Par le secrétariat d'État à la francophonie, je pense qu'il existe encore, et en tout cas la revue de l'École des Lettres à Paris, qui est une revue qui diffuse sur le territoire national à destination des profs de français. Et cette exposition 10 mois 10 mots a obligé les élèves à réfléchir sur ce que sont les 10 mots chez eux. Et par exemple, il y a des élèves qui me disent moi je peux pas traduire chez, ou je peux pas traduire penchant. Il y en a d'autres qui me disent pour chez, moi j'ai 5 mots. Bon, voilà. Donc ils réfléchissent sur la langue. Et toute réflexion sur la langue est bonne à prendre et après alimente même inconsciemment la structure de la langue et la capacité de l'élève à s'en servir. D'un autre côté, ça remet en jeu des choses. Alors, après, moi, je ne peux pas l'analyser à 100% parce que je ne suis ni anthropologue, ni ethnologue, ni psychologue. Les élèves souvent me disent avec mes parents, on a vu que, etc. C'est-à-dire que du coup, ça relance aussi, pas le dialogue dans la famille, parce que les familles, mais ça relance la réflexion sur ma langue, mon identité, mais dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai, de quoi je peux me servir, qu'est-ce que je possède, sachant qu'une langue n'est jamais construite comme une autre. Donc, il y a bien un esprit. Et ça permet de se le réapproprier au lieu d'essayer de l'enfoncer, le mettre de côté en disant il faut absolument que j'arrive à attraper le reste du créneau. Et puis, quand ils sont sur place, je pense que la confrontation aux gens qui, dans l'établissement, c'est-à-dire aux autres élèves qui n'ont pas forcément ces langues-là à disposition, est intéressante parce que, du coup, les autres élèves sont spectateurs et eux sont organisateurs. Ce qui peut changer parfois certains rapports où on va demander aux élèves plutôt à l'aise en français de faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que nos élèves de l'exposition ne sont pas à l'aise en français. C'est simplement que ça change totalement le rapport à cette autre culture.
Vous me disiez aussi que dans votre établissement, il y a au moins 22 langues qui sont parlées et que ça permettait aussi de montrer que, par rapport aux clichés liés au quartier populaire sur lequel le lycée est installé, qu'il n'y a pas que des langues, notamment des langues du continent africain, il y a aussi des langues vraiment de partout dans le monde.
C'est intéressant. Nous, on a découvert ça en allant à la pêche aux langues l'année dernière. On ne s'était pas dit, on va demander aux Africains pour leur langue. Bon, ça, c'est évident. On a Africains, on a quelques langues. On a l'arabe qui est représenté en tant que langue avec des variantes régionales ou nationales. Par exemple, cette année, on a l'arabe libanais qui est revendiqué, tunisien. Bon, de temps en temps, il y a quelqu'un qui nous dit, ouais, moi, je fais l'arabe algérien. Bon, il y a des différences, surtout dans la façon de parler. Et puis, À côté de ça, bah, effectivement, il y a tout un tas d'autres langues. On a le serbe, le tchèque, le russe. On va me dire, bah oui, c'est les pays de l'Est, c'est un autre type de provenance. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a énormément de richesses. Et cette année, on a un jeune qui vient d'Afrique du Sud, qui parle à la fois, enfin qui parle surtout l'afrikaner, puisque c'est sa communauté d'origine, mais il connaît aussi pas mal de mots de zoulou. Bon, voilà, donc ça, c'est quand même assez étonnant. On a des gens qui viennent du monde entier, et puis quand ils se posent à Nantes, on a des Canadiens qui sont là, mais dans le cadre d'un échange, on en profite, on leur demande de venir et de nous faire partager leur langue.
Est-ce que ça suscite du coup le débat et éventuellement peut-être des liens après ?
En fait, ça vient se greffer sur d'autres liens. C'est-à-dire qu'on a une période de l'année, avril, où ils ont choisi qui ils allaient fréquenter dans une classe et qui ils peuvent fréquenter ou pas, mais vraiment pour question en raison des questions d'amitié. Et donc, du coup, leurs amis viennent les voir. C'est-à-dire les gens de la classe sont très très curieux de savoir pourquoi Asli va faire des cours de djiboutien, par exemple. Elles veulent voir Asli en train de faire cours parce que d'habitude elle la voit assise dans la classe en même temps qu'eux. Bon, donc il y a vraiment cette question-là et les amis proches veulent absolument assister au cours. Et les autres découvrent parfois la difficulté de la langue, découvrent aussi que effectivement quelqu'un est très très à l'aise dans une langue dans laquelle ils sont pas à l'aise. Donc ça retaille un certain nombre de rapports. Peut y avoir des frictions. C'est-à-dire que quand on commence à parler de la langue turque et de la langue kurde, ça coince encore un tout petit peu, par exemple, parfois de ce côté-là. Mais ça reflète plutôt les. Alors là, ça reflète les frictions nationales. Donc c'est pas. Ou nationalistes. C'est pas. Ça n'est pas lié, on va dire, à la personnalité des individus. Puis c'est un réflexe a priori. Mais l'année dernière, on avait un stand de Turcs très tranquillement. Enfin, il n'y avait pas de problème majeur.
Comment est-ce que vous en servez ensuite de ce qui a pu naître, ce que vous avez pu entendre, attraper au passage dans les classes, au sein de l'exposition? Comment vous en servez dans vos classes, peut-être au sein des équipes pédagogiques du lycée?
Alors, on n'a pas vraiment le temps de s'en servir parce que comme on arrive en fin avril, début mai, les ponts, ensuite les examens. Donc, par exemple, le lycée va perdre facilement un tiers de son effectif avec les BTS. Donc là, une disparition, c'est pour ça qu'on, là aussi, on le fait un peu tôt. Les classes prépa qui viennent également partent dans très, très peu de temps. Et donc, on ne réutilise pas ça directement. En revanche, là, on est sur un projet avec une étudiante de français langue étrangère qui fait son stage sur Tertalang, d'enregistrement systématique de la langue étrangère et de la traduction sur un texte pour faire une bibliothèque sonore. Alors ça, après, on va voir comment on peut s'en servir. Mais comme la plupart des textes sont des textes poétiques, mine de rien, voilà. Là, on tient un petit quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler.
Bonjour à tous, c'est le premier cours de Shimaoré. Le Shimaoré, donc, c'est une langue parlée à Mayotte. Donc voilà la carte de Mayotte. Mayotte est située dans l'océan Indien entre l'Afrique et Madagascar. Et elle fait partie de l'archipel des Comores. Et l'archipel des Comores, il y a 4 îles. Et parmi les 4, Mayotte est la seule qui est restée française. Donc pour commencer le cours, on va faire une petite lecture de proverbes en Shimaoré avec la traduction à côté, juste pour que vous puissiez voir la prononciation et... parce qu'il y a des sons qui ne se prononcent pas de la même manière qu'en français. Il y a par exemple la lettre D se prononce D. D. Il faut mettre la langue derrière les dents sur le palais. D. La. D. Oui. Oui. D. Comme par exemple pour dire la maison, on dit d'agonie.
D'agonie.
Oui, ça ressemble un peu au L. C'est là où on met la langue pour dire L.
Gégé, wami uhiri wa salama, tizawa maori, wami lagua shizungu. Ta faranta nisfanya BTS tourisme. Bonjour, je m'appelle Salama. Je suis née à Mayotte et je suis en France et pour une préparation d'un BTS tourisme.
Comment est-ce que vous avez participé à l'action Tire ta langue là ?
C'est une action qui nous a été proposée par un prof. C'est pour représenter les différentes langues qui sont parlées au sein du lycée Carquet. C'est surtout pour voir à mes camarades que la différence qu'il y a entre ma langue maternelle et le français.
Donc ils sont surpris de ça ? Comment est-ce qu'ils réagissent, vos
camarades ? Oui, ils étaient contents parce que du coup, vu que ici on parle que le français, ils m'ont entendu parler que français. Donc m'entendre une fois parler une autre langue, ça leur a impressionné. Et surtout qu'il y a des prononciations qui sont vraiment différentes du français, qui est impossible pour eux de les prononcer. Donc je pense que ça leur a plu d'apprendre un petit peu sur ma langue.
En faisant ce cours, c'était aussi un peu de parler de Mayotte, j'imagine.
Oui, c'est surtout pour parler, parce que Mayotte, c'est la seule île des Comores qui est restée française. Donc c'est surtout pour expliquer comment ça se fait que Mayotte, il est resté français et comment elle est devenue française.
Vous avez eu l'impression que vos camarades, ils étaient intéressés, surpris ?
Oui, surtout pour répéter les mots. Au début, ils étaient un peu hésitants parce qu'ils avaient peur. Mais ils ont fini par répéter les mots comme il le fallait.
Et pour le cours, comment est-ce que vous avez mis en place ce cours ? Est-ce que là, vous arrivez et puis vous improvisez ? Ou est-ce que vous avez
travaillé ? Non, c'est un cours. Je l'ai préparé bien avant. Parce que le contenu du cours, par exemple, au début, j'ai commencé par raconter une histoire, l'histoire de Mayotte, brièvement, par le situer au niveau géographique. Et après, j'ai lu un texte avec des proverbes en chimaoré pour qu'ils voient comment on prononce les mots. Et on a fini par se présenter. Je les ai appris à se présenter en chimaoré.
Matama, matama benevise, benemnenga bouma. Deuxième année Christian, mais là sous l'eau à Clémenceau. Nous nous voulons la CPES. Je m'appelle Christian Azoulay. Je suis étudiant CPES, classe préparatoire aux études supérieures. Et l'année dernière, j'étais à Carquet.
Et alors, pourquoi vous êtes revenu ici ?
En fait, le projet Tire ta langue est né en 2010-2011. J'y ai participé avec M. Nicolas et M. Palerne. Ça m'a intéressé. Et cette année, ils m'ont proposé de refaire la même chose.
Vous êtes revenu parce que vous parlez...
Bakoko.
Bakoko, voilà. Alors, qu'est-ce que cette langue Bakoko ?
En fait, c'est une langue, l'une des 279 langues parlées au Cameroun. Langue tribale, si vous voulez. Il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et dans les maisons, avec la famille, on parle plutôt la langue, langue maternelle. Et moi, c'est le Bakoko.
D'accord.
Et le Bakoko, c'est plutôt au niveau du sud-ouest Cameroun. Ça s'appelle Littoral. C'est le département Littoral. Et c'est une langue qui est très parlée dans cette partie du territoire. Quand je parle à des personnes, en fait, ils se disent que voilà, je ne parle que le français et ils sont très étonnés de me voir parler une autre langue, même à Clémenceau, où je suis. Mes amis, quand ils m'ont entendu parler le Bakoko avec ma mère, je parlais avec ma mère au téléphone, ils ont été très surpris, ils m'ont dit « Christian, tu parles une autre langue ?» Oui, je parle une autre langue. Et parler aussi, montrer que je parle une autre langue que le français, c'est aussi leur montrer mon identité, ma véritable identité. Le fait de venir ici et de montrer à toutes ces personnes que je parle le Bakoko, c'est finalement leur dire que voilà, j'ai également une autre culture, à part la culture française. J'ai une autre culture, je veux l'exprimer ailleurs que chez moi. Et je pense que là, c'est vraiment un bon moyen pour y arriver, pour le faire. Faire ça, parler avec ces personnes-là qui sont autres que ma famille, moi, je trouve que c'est important parce que finalement, j'offre aussi une part de ma culture aux autres.
Alors bonjour, je m'appelle Alison, je suis en terminale ES au lycée Carquois.
Et vous représentez ?
Le portugais.
Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis en première L et je parle portugais en fait.
Est-ce que les gens ils savaient que vous parliez portugais ?
En fait, ils ont découvert qu'on parlait portugais parce qu'il y a des panneaux, donc ils présentent chaque langue. Et après, ils ont vu qu'on parlait le portugais en fait. J'ai comme certains amis qui savent que je suis la portugaise, donc ils sont venus vers moi, ils sont intéressés, ils ont posé des questions. En fait.
Je trouve que c'est intéressant l'initiative parce que dans les autres lycées, je crois pas qu'ils le font. Donc je trouve ça bien. En plus, le lycée plusieurs personnes parlent d'autres différentes langues. Donc je trouve ça intéressant de faire découvrir et partager. Nos langues, quoi.
Vous vous en servez au quotidien du portugais ou peu ?
Moi, pas trop. Quand je vais au Portugal, avec ma grand-mère, je peux y parler le portugais parce qu'elle comprend pas le français. Donc ça m'apprend des mots, des phrases à dire.
Moi, au quotidien, je parle avec mes parents, mais ça vient aussi, on parle aussi français. En fait, on va plus parler portugais quand on s'énerve. C'est la langue maternelle qui vient directement. Et voilà. Sinon, je parle pas... Souvent, si, quand je vais au Portugal, parce que personne de ma famille là-bas parle français.
Torebka z banknotem 100 złotowym była czarna.
Chcę też zamówić dużą szklankę z soku pomarańczowego.
Torebka z banknotem 100 złotowym była
czarna. Reportage, mixage, Magali Grolier.
Dużą szklankę soku pomarańczowego.
Torebka z banknotem 100 złotowym była czarna.
Chcę też zamówić dużą szklankę soku pomarańczowego.